France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il a pris la tête du théâtre de l'Odéon et c'est donc sa première ouverture de saison. Julien Gosselin sera mon invité à partir de 13h. Mais avant le théâtre, honneur à l'opéra avec nos critiques du jour, du grand, du populaire. Aïda de Giuseppe Verdi, mise en scène par Chérit Neschat et dirigée par Michele Mariotti à l'opéra Bastille. Et puis les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, mise en scène par Lotte de Berre et dirigée par Pierre Dumousseau. Ça, c'est à l'opéra comique. Vous avez demandé les midis de culture, ne quittez pas. Et ces critiques du jour, je vous les présente. Zoé Sfès, productrice de la série musicale sur France Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Anna Sigalevitch, journaliste et autrice, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
Merci.
Ah oui, je sais, c'est vraiment banal de passer l'air des trompettes pour parler d'Aïda, mais moi je trouve que ça en jette un petit peu pour ouvrir une émission. Et puis je compte sur Anna pour nous faire écouter un autre extrait tout à l'heure de cette reprise du célébrissime opéra de Verdi, donné en ce moment à l'Opéra Bastille à Paris. Cette Aïda est dirigée par le chef italien Michele Mariotti jusqu'au 19 octobre. Dmitri Matvienko prendra la relève jusqu'au 4 novembre. À la mise en scène, la plasticienne iranienne Chérit Neschat, une mise en scène qu'elle a remaniée à deux reprises depuis la création en 2017. Il faut dire qu'entre-temps, le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran a bouleversé le monde, tout comme les guerres en Ukraine et à Gaza. Chérit Neschat a donc voulu replacer la violence et le fanatisme religieux au cœur de cette histoire. On commence par un mot rapide, Anna Sigalevitch.
Oui, alors en effet, moi j'avais vu cette mise en scène lors de sa création en 2017 au Festival de Salzbourg. Et alors j'ai eu le sentiment de voir vraiment un tout autre spectacle. Est-ce lié au fait qu'elle est retravaillée? Bien sûr. Est-ce lié au contexte politique dans lequel on vit? Bien sûr aussi. C'est lié aussi, à mon sens, à l'équilibre entre la fosse et le plateau. Toujours est-il que lors de la création, j'avais plus le sentiment de voir des images qu'une réelle mise en scène. La distribution était totalement dominée à l'époque par Anna Netrebko, qui était une Aïda tout simplement renversante, hallucinante. Là, c'est plus équilibré, c'est plus homogène, on va y venir. Mais en tout cas, je trouve que y a du fond, le propos nous parvient, il tient. Il y a quelques problèmes, on va y venir, mais c'est un spectacle classique, remodernisé, avec de vraies idées, avec une tenue, et j'ai pris un réel plaisir et esthétique et dramaturgique et musical lors de l'après-midi que j'ai passé hier à la Bastille.
C'est tout frais. Voilà. Zoé, en quelques mots également.
Eh ben moi, j'avais assez peur en fait de cette mise en scène, parce que je pense que les retours de Salzbourg avaient été... Moi, j'avais peur de cette mise en scène de plasticienne, parce que c'est toujours un peu... Voilà, parce que je suis pas particulièrement fan du propos un peu féministe, libéral parfois, de Chérit Neschat, qui est donc d'origine iranienne, mais qui est très américaine, on va dire, dans sa manière d'aborder le monde. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument... Alors, il y a plein de défauts, il y a plein de ratages, mais je trouve que cette mise en scène fait quelque chose d'assez important, c'est qu'elle, vraiment, elle vient éclairer l'œuvre. C'est quand une mise en scène arrive à faire ça, c'est très bien. Il y a un excellent équilibre pour moi entre le projet de mise en scène de Chérit Neschat, dont on sent qu'il y a plusieurs strates et que parfois elles sont pas au même niveau, et la fosse, parce que en fait elle arrive vraiment à donner des couleurs à cet opéra que, je rappelle, on n'a pas vu à Bastille pendant 40 ans. Non, alors on l'a vu récemment depuis 2013, il l'avait remis, mais pendant 40 ans on le jouait pas, parce que c'était vraiment l'opéra pompier de Verdi, très old school. Et elle, en fait, elle arrive à donner, et la fosse avec elle, un vrai sens à ce caractère pompier dans cet opéra, qui est vraiment porté par des scènes de chœur, des scènes de prêtres, des scènes de violence. Et du coup, ça colore tout ça d'une manière hyper intéressante. On arrive à entendre un projet verdien qui parle vraiment d'oppression. Et du coup, en ce sens, c'est une mise en scène qui, dans ce qu'elle raconte, est réussie. Après, il y a vraiment des petits problèmes, voire des gros problèmes. Ouais. J'en profite quand même pour dire une chose, et je le dis en entrée de jeu. C'est particulièrement violent d'aller à l'Opéra Bastille les jours de première. De manière générale, les mises en scène peuvent être très fortement huées. Là, on est sur une mise en scène qui a un propos, on va dire, féministe, mais qui, de manière générale, s'attaque à la question de l'oppression. J'en ai marre de la violence des huées. Elle a été huée avec une violence qu'on retrouve, hein, évidemment, mais notamment quand les mises en scène sont très déconstructivistes ou très moches, parce que parfois c'est des partis pris. Là, c'est une mise en scène qui reste comme somme toute assez classique, assez esthétisante. Je ne comprends pas la violence des huées et je ne comprends pas la violence des huées qu'il y a eu aussi à l'Opéra Comique, ce qui est très rare. Dans les deux cas, c'est des mises en scène qui essayent de faire des choses et parfois elles ont des défauts, on s'en fiche, mais qui sont portées par des femmes et ça, c'est très, très agaçant. On en vient à avoir honte, en fait, de faire partir du public par donc je tiens à le dire. Voilà.
C'est dit, on écoute l'extrait que vous avez choisi, Anna Sigalevitch, Céleste Aïda. Aïda de Verdi à l'Opéra Bastille, dirigée par Michele Mariotti, sur une mise en scène de Shirin Neshat. Anna Sigalevitch, vous avez parlé de modernisation. Alors, qu'est-ce qu'elle en fait exactement de cette espèce d'énorme opéra pompier, comme vous disiez, Zoé?
Oui, oui, bah, qui en effet peut être très pompier, qui peut même être, enfin, à mon sens, parfois un peu difficile à voir. C'est très long, il y a beaucoup de chœurs, il y a énormément de personnes sur scène. Mais attention, parce que c'est aussi un drame vraiment de l'intime. Ça, c'est très, très, très important. Hein. C'est le cœur, mais c'est aussi ce que vivent ces personnages. Et c'est ça qu'elle a réussi, à mon sens, à donner à voir. C'est vraiment ces trois personnages qui, pour des raisons très différentes, hein, donc le personnage d'Aïda, je rappelle que c'est une esclave éthiopienne qui vit en Égypte, dont tombe amoureux Radamès, et elle tombe aussi amoureuse de lui. Radamès, lui, va être le chef de l'armée égyptienne. Il va être élu comme ça. Il va faire vaincre les Égyptiens sur les Éthiopiens. Et il y a aussi le troisième personnage qui est celui d'Amnéris, très important, qui est la fille du roi, qui, elle, est amoureuse de Radamès. Mais Radamès ne l'aime pas. Et donc, il va y avoir un grand conflit entre Aïda et Amnéris, parce que Amnéris comprend que Aïda est amoureuse de lui, et donc tout ça va dégénérer. Donc ce sont trois personnages qui vivent des drames intimes très forts, et ce qu'on sent, c'est qu'ils sont tous les trois totalement sacrifiés sur l'autel de l'idéologie conquérante, territoriale et religieuse. On le voit pas forcément tant que ça dans les mises en scène d'Aïda. Moi, je dois dire que je ne sais pas si j'ai vu une mise en scène pleinement convaincante d'Aïda de toute ma vie. On en a vu, en effet, ces dernières années. D'ailleurs, une de Lotte de Berre, il n'y a pas si longtemps, à l'Opéra de Paris, moi, qui ne m'avait pas vraiment convaincue. Il y avait celle d'Olivier Pic, qui ne m'avait pas vraiment convaincue non plus. Bon, on en a vu quelques-unes. Voilà. Là, elle arrive à faire ça. Ce qu'on voit, et ce qui est réussi aussi, c'est que, comme vous le disiez, Marie, c'est une plasticienne, c'est une vidéaste, c'est une photographe. Et donc, elle donne des images dès le départ, avec un sens de l'espace qui est assez simple et en même temps assez monumental et efficace, ce qui est très important pour ce genre d'œuvre quand on a quand même par moment plus de 100 personnes à caser, pardon pour l'expression pas très jolie, mais à placer sur un plateau. Donc là, on a un très très grand cube blanc qui se divise en deux parties, qui tourne, et il y a beaucoup de projections, donc des vidéos, des photos, elles apparaissent pendant certains tableaux, entre les tableaux, pendant les précipités, il y a pas mal de précipités où on voit des figures comme ça en noir et blanc qui s'affichent sur scène. On voit aussi des extraits de la série qu'il a rendu célèbre, les femmes d'Allah, où on voit des femmes, enfin des bouts de corps et de pieds, de jambes avec une écriture en farci dessus.
Et ça fonctionne
dessus.
Ça c'est
alors oui, ça fonctionne plutôt. Ça commence par juste une vidéo à peine mobile de mer en noir et blanc où on voit une barque au loin. Et il y a ces figures qui apparaissent, qui racontent finalement, parce que là où elle a changé pas mal les choses, c'est que elle a beaucoup plus mis en scène les Éthiopiens, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas normalement beaucoup dans le, parce qu'on voit la gloire des Égyptiens et le conflit, on voit beaucoup moins les Éthiopiens. Là, elle les met vraiment en scène. Elle les met par exemple au cœur du plateau quand les Égyptiens viennent de remporter la victoire. On voit aussi quand le père d'Aïda, Amonas Rowe, veut la convaincre d'utiliser Radames pour aider son peuple à gagner, donc trahir, quoi, le pousser à la trahison. Il utilise des cadavres, il lui montre des cadavres, des corps d'Éthiopiens pour que sa culpabilité la fasse flancher. Ça joue très bien. L'utilisation de l'espace, je vous le disais, elle est belle, elle est réussie, ça bouge bien, les corps, les cœurs, ça c'est très réussi. Donc ça se raconte et il y a un propos vraiment dramaturgique qui se déroule, je trouve, avec pas mal de fluidité. Le problème, c'est le théâtre. Parce qui n'est quand même pas un petit problème, hein, c'est que, comme on le disait, voilà, il y a les scènes de groupe, mais il y a aussi les scènes de l'intime, et il y a les scènes de jeu entre les personnages. Il y a des séquences qui sont très très importantes. Par exemple, cette première scène de lutte entre Amneris et Aïda, là, elles sont un peu plantées sur scène comme ça, il se passe pas grand-chose. Le grand duo d'amour entre Aïda et Radames, c'est pareil. Ils sont un peu... Bon, voilà, on sent que c'est une femme qui a une esthétique très 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 claire et très dense, qui a un propos, qui a beaucoup d'intelligence de l'espace et de la scène. Ça n'est pas une femme de théâtre et ça n'est pas une directrice d'actrice.
Zoé Sfès.
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Anna dans le sens où, en fait, son projet à elle, c'est, elle se base sur ce livret et cette opéra qui ont été commandés, je rappelle, pour l'ouverture du canal de Suez, d'où le côté hyper pompier, parce qu'il fallait que cette opéra tienne en plein air. Ça a été une entreprise complètement phénoménale, les décors sont arrivés par bateau, etc. Elle s'appuie sur cet opéra où il y a cette alternance et cette construction complètement folle entre d'énormes moments choraux, et notamment où il y a des guerriers, des prêtres en permanence, constamment, et des chœurs hyper puissants, et des morceaux très orientalisants, parce qu'il a beaucoup travaillé Verdi, il a réinventé des trompettes pseudo-antiques, mais les morceaux très orientalisants et extraordinairement délicats, parce que je rappelle que quand on écoute cet opéra, vraiment on se dit encore une fois que Verdi c'est de la putain de belle musique, vraiment, qui joue ce contraste très fort sur ces chants de l'intime, qui sont d'une immense délicatesse. Elle arrive vraiment à nous dire, en fait, je vais faire un opéra sur qu'est-ce que c'est une nation triomphante, et elle se focalise sur les vaincus. Mais les vaincus et les oppressés, ça peut être autant les Éthiopiens, donc qui sont ce peuple écrasé à laquelle appartient Ida, qui est en conflit à la fois patriotique et amoureux, mais c'est aussi Amneris. Par exemple, Amneris qui est donc la fille de Pharaon et qui a un trajet émotionnel, puisqu'elle commence par détester Aïda, elle veut lui voler Radames, et finalement, elle est tellement amoureuse de Radames que même quand il trahit le pays, quand il la trahit elle, elle est à la fin, elle arrive à un sentiment de paix. Souvent Amneris, qui a un rôle de mezzo très puissant, est souvent représentée comme la méchante, c'est là un peu la méchante qui gueule dans Aïda. Là, elle lui donne vraiment, on voit qu'elle-même est tout à fait oppressée aussi par l'État égyptien, ce qui marche très bien. Donc pour ça, elle va se servir en bonne plasticienne. Elle joue vraiment de ces grandes scènes chorales et elle fait des grands aplats de couleurs. Il y a ce cube blanc qui lui permet de projeter, mais aussi d'enfermer ses personnages avec ses prêtres, avec un mélange d'esthétiques qui fonctionne plutôt bien, puisque Amneris, elle est dans des costumes un peu riches libanaises antiques. Les mollahs, les prêtres, c'est vraiment des mollahs. Et puis les militaires ont un uniforme qui pourrait être celui des soldats israéliens. Ça marche très très bien parce que elle va prendre toutes les séquences de glorification et elle va en faire des séquences hyper violentes. Donc il y a notamment, on est obligé de le dire, ce fameux air des trompettes qui est suivi en général par un très très beau morceau qui était le morceau du ballet, parce qu'à l'époque il fallait toujours qu'il y ait un ballet dans l'opéra. Et là elle va le remplacer par une projection, puisque là les Égyptiens viennent de gagner, où on voit littéralement sur ce cube les sévices qui ont été imposés aux Éthiopiens, et c'est ça qui donne la victoire. Elle fait aussi Radames, qui est notre héros, qui est le petit ténor chantant, assassine symboliquement, va immoler une Éthiopienne pour marquer la victoire. Donc c'est extrêmement violent. Ça marche quand même beaucoup moins, je trouve, parce que elle oscille justement entre des moments où elle veut montrer frontalement la violence, les corps nus, les cadavres, cette scène de violence et de viol qui nous est projetée sur ce moment-là, et des moments où elle est quand même un peu esthétisante. Donc l'espèce de côtoyage des deux est un peu étrange à certains moments. Ça marche effectivement, vous avez raison, assez mal, parce que comme souvent les plasticiennes, elle sait pas trop quoi faire d'un chanteur quand il chante, en fait. Donc c'est en ça que ça va pas, notamment dans la scène finale qui est magnifique, où ils sont enterrés vivants tous les deux, Radames et Aïda, et elle essaye de les faire se croiser, parce que c'est un moment très long où ils sont censés mourir ensemble, elle sait pas trop quoi faire d'eux, donc ça marche moins. Ça marche surtout pas bien du tout. Il y a, je pense, le principal problème de cette mise en scène, c'est qu'on sent qu'il y a eu plusieurs strates. Moi, je trouve qu'elle est arrivée à quelque chose de pas mal avec cette projection des Éthiopiens qui sont donc filmés, qui sont des mélanges de ces anciennes images et ces nouvelles images. Sauf que ces Éthiopiens, ils sont mi-noirs, mi-blancs, on n'est pas sûr, et parfois on a du mal à comprendre vraiment qui c'est. Et surtout, il y a ces précipités d'images qui viennent de son ancien travail, où avant chaque acte, elle nous donne un précipité d'image qui est projeté sans musique, avec des visages, donc des visages qu'elle a pris en photo. Et là, le public s'ennuie, le public ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, on sait plus si elle parle de Gaza, on sait plus si elle parle de l'Iran, et on se retrouve dans ce truc où les gens toussent et veulent que ça commence, alors qu'elle nous montre des visages de gens qui souffrent. Donc là, il y a un petit problème.
Aïda de Giuseppe Verdi, je suis désolée, on doit passer à la suite.
Oh non, on a parlé du chef, je promets.
Je suis désolée, il est 12h17, chers amis. Eh oui, Giuseppe Verdi, mise en scène par Shirin Neshat et dirigé par Michele Mariotti, le chef donc jusqu'au 19 octobre à l'Opéra Bastille. On enchaîne avec un autre grand classique qui lui aussi est remanié sur la scène de l'opéra comique, cette fois les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, remanié par la metteuse en scène néerlandaise Lotte de Beer, qui avoue s'être questionnée sur la place des femmes dans cette histoire, car le poète Hoffmann raconte par le menu ses déboires amoureux. Les dialogues parlés donc ont donc été ajoutés, où la muse qui sermonne Hoffmann revient au centre du jeu. Le spectacle a été créé en janvier dernier à l'Opéra National du Rhin. Pierre Dumousseau dirige le chœur de l'ensemble Aedes et l'orchestre Philharmonique de Strasbourg. On commence avec un avis rapide, Zoé.
Eh ben écoutez, moi j'ai jamais vu de Conte d'Hoffmann réussi, parce que c'est typiquement le genre, c'est un problème, c'est un opéra qui est construit sur la figure et des contes que le public de l'époque connaissait très bien, Hoffmann donc, et ses contes qui sont la réalité fantasmagorique, qui est un concept complètement absurde, et donc soit c'est complètement raté, d'autant plus qu'il y a toujours cet écart entre la musique d'Offenbach qui est sublime et le livret qui a un peu vieilli. Donc ponctuellement, on a des magies totales, on a des mises en scène qui arrivent à rentrer dans la folie, parce que c'est vraiment le propre de Conte d'Hoffmann, c'est de nous emmener dans le merveilleux. Moi, je n'ai vu que des mises en scène ratées, et surtout, effectivement, il y a un problème, puisque c'est quatre actes, quatre histoires, avec quatre femmes qui sont à la fois objectifiées et sacrifiées sur l'autel d'eux. Donc, elle a envie, Lotte de Beer, de sortir de ce problème du livret, et elle va le faire en prenant un aspect un peu psychologisant. Donc, il y a cette muse qui fonctionne un peu comme une psychanalyste, et il y a surtout des parties prises de mise en scène qui sont des parties prises de perception. C'est-à-dire notre perception va changer, rétrécissement, etc. C'est globalement pas inintéressant. Moi, je veux dire, c'est pas les pires Contes d'Hoffmann que j'ai vus du tout de ma vie. Je trouve pas ça inintéressant. Il y a des vrais défauts. Plateau vocal assez éblouissant, faut quand même dire. Très beau système des voix. Ça a des mérites quand même, mais on n'arrive pas à partir dans le merveilleux.
On va y revenir, Zoé. Pardon, excuse-moi, Anna.
Oui, alors moi, je n'ai pas du tout été emballée par la production, parce que, vous le disiez, Marie, sermonner, le mot sermonner est assez juste concernant ce que fait la muse pendant toute la représentation. Alors, il faut expliquer que les Contes d'Hoffmann, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a en effet, c'est un opéra inachevé, il y a plusieurs versions, on peut utiliser des récitatifs, on peut utiliser des dialogues parlés, par moments les scènes bougent, enfin on voit jamais exactement les mêmes Contes d'Hoffmann. Concernant les mises en scène, effectivement c'est très difficile à mettre en scène. Moi j'en ai quand même vu une qui tient depuis des années à l'Opéra de Paris, celle de Robert Carsen, qui est quand même absolument magnifique, donc on peut pas dire qu'il y en a pas une quand même qui tient la route. Bon, pour moi c'est vraiment une mise en scène très 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 réussi, mais en effet des grands metteurs en scène comme Christophe Warlikowski, comme Christophe Marthaler, comme bon, enfin voilà, ils se sont cassés les dents sur les Contes d'Hoffmann, c'est compliqué. Là pour moi, le problème de cette distribution, c'est que je pense qu'on peut tout faire, hein. On peut agresser un livret, on peut changer les choses, on peut réécrire les dialogues, j'ai aucun problème. Mais qu'est-ce que ça raconte et où ça nous emmène? là, non seulement le merveilleux est évacué, mais c'est surtout que, pour moi, il y a quelque chose de contre-productif dans ce côté très, très, très didactique, parce que on nous explique les scènes avant qu'elles aient lieu, et le personnage de d'Hoffmann est tellement raillé par le personnage de la muse Niklos, qui certes est ironique toujours, mais là c'est vraiment, enfin c'est presque, c'est une muse castratrice, hein, pardon pour l'oxymore, mais donc c'est quand même très très problématique, parce que ça coupe l'herbe sous le pied de chaque scène avant qu'elle n'arrive, et donc on peut pas être embarqué, et ça ne s'incarne pas.
On va écouter tout de suite un extrait que vous avez choisi. Zoé Sfez, la Baccarole. On va être un peu obligé de raccourcir cet extrait si on veut avoir le temps d'en dire quelque chose, Zoé.
Bon, la Barcarolle, vous la connaissez toutes et tous. Les contes d'Hoffmann, c'est une fabrique à tubes. Évidemment, donc cette Barcarolle, on est dans un des derniers actes à Venise. Alors, comme on le disait et comme le disait Anna, il y a ce truc psychanalytique dans cette approche de mise en scène. Moi, en fait, ça me gêne pas totalement parce que ce livret est de toute façon très décousu, on l'a dit. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va continuer dans sa mise en scène. Je rappelle aussi qu'il y a une question de moyens. Les contes d'Hoffmann, vous pouvez faire des trucs très beaux si vous avez beaucoup de fric, il faut le dire. Et là, elle va vraiment essayer de nous dire que tout ça est une question de perception. Donc je suis un peu d'accord avec Anna, mais en même temps non, parce qu'elle essaye de faire quelque chose sur c'est quoi le fantasme masculin et c'est quoi ce qui se passe dans la tête. Globalement, à la fin, ça devient comme une exploration d'un rêve, mais d'un rêve au sens un peu, pas magnifique, mais un peu angoissant, puisque donc on a un seul plateau, un seul et même plateau, qui est une espèce de chambre déformée par une perspective, qui va tourner plusieurs fois sur une tournette et qui, pendant que les dialogues, c'est aussi pour ça qu'elle se sert des dialogues, c'est-à-dire que c'est en ça que ça marche, à chaque fois que la muse et Hoffmann vont commenter, un rideau tombe et quand il se rouvre, la pièce qu'on vient de connaître a changé. Il y a toujours les mêmes tables, mais elles sont petites ou énormes. Il y a toujours la même poupée, mais elle est petite ou énorme. Il y a toute une histoire, voilà, comme ça, de perception. Il y a le fameux Docteur Miracle, tout ça sur des histoires vraiment de fantasmagorie qui, moi, m'ont jamais intéressée. Faut quand même dire les choses. J'ai jamais été intéressée par le livret des contes d'Hoffmann. Elle a quelques belles idées d'images de mise en scène. Elle se repose un peu, beaucoup, dessus. Elle demande énormément aux interprètes qui sont en permanence déjà sur scène, parce que la muse et Hoffmann passent leur vie à parler ensemble. Je pense qu'ils sont sur scène littéralement pendant tout le temps. Et ils bougent énormément. Donc elle s'appuie vachement sur eux, ce qui les rend quand même assez héroïques. Moi, j'ai quand même eu un autre problème, c'est que j'étais pas hyper convaincue par le jeu de la muse. Donc c'était un peu compliqué, Héloïse Masse, même si elle chante extraordinairement bien. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a des moments quand même où on s'ennuie, où on part. Elle a après une très belle idée finale dans cette histoire de perception, c'est de faire sortir le cœur et de le mettre dans la salle, derrière nous, ce qui va changer la perception du son. Et ça, pour le coup, je trouve que c'était très réussi dans l'épilogue final où on comprend que Hoffmann s'est réveillé et qu'il a enfin la muse. Sur la musicalement, j'ai trouvé que ce plateau vocal était quand même hyper réussi. On a un Michael Spiers qui donne tout en Hoffmann, vraiment, il donne tout ce qu'il peut. Il donne tout ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et du coup, il est un Hoffmann ni très jeune, ni très... Voilà, il arrive à construire un truc dans cette histoire que je trouve pas mal. Amina Idris, moi je l'aime toujours autant, pareil, qui joue quasiment tous les rôles de
Stella,
femme.
Olympia, Antonia, Giulietta.
Exactement, pareil, ça bouge énormément. Je ne suis pas certaine de la direction d'orchestre, j'ai été moins convaincue, mais par contre, mention spéciale à l'ensemble AEDES, qui est l'ensemble vocal de cette production, et qui, je trouve, apporte un peu la magie par la qualité du son qu'il produit.
Alain Sigalevitch, on va parler musique.
Alors, on va parler musique, d'accord. Alors, Michael Spares, oui, tout à fait, très très beau.
Dans le rôle d'Hoffmann.
Hoffmann, c'est vraiment un chanteur flamboyant. Il se décrit lui-même comme un baryténor, et ça marche très bien, parce qu'au départ, Hoffmann était un rôle de baryton souhaité par par Offenbach, puis pour des raisons après de contingence, de création, etc. Bon, ça a été un ténor, mais il faut des graves, il faut quelque chose de sombre dans le rôle et quelque chose d'extrêmement solaire, naïf, et qui monte dans les aigus aussi, et ça, il est remarquable pour ça. Concernant le reste de la distribution, moi, j'ai été moins convaincue que Zoé par Amina Idriss dans tous les rôles, parce que c'est très, 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 très difficile de chanter tous les rôles, parce que Antonia n'a pas du tout les mêmes exigences vocales que Olympia. Il y en a une qui doit aller dans les aigus, les suraigus, qui est vraiment une coloratour, l'autre qui est plus un soprano lyrique. Et je l'ai senti un peu, à vouloir assurer tous les rôles et donc, du coup, à ne s'engager pleinement et à être épanouie pleinement dans aucun. C'est plutôt quand même un soprano lyrique, Amina Idriss, mais en Antonia, par exemple, qui est le moment de la soprano plutôt lyrique, je l'ai pas trouvée très 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 émouvante et incarnée. En Olympia, bon, elle a quand même un peu de mal avec les coloratours, bon, mais c'est très 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 difficile. Après, sinon, l'ensemble de la distribution tient plutôt la route, ouais, complètement.
Et Aïdès,
en ce qui concerne la direction d'orchestre, moi, j'ai bien aimé la direction de Pierre Dumoussou, que je trouve très vivante, très animée. Alors, pas du côté du grand opéra romantique, mais vraiment du côté dynamique, toujours en mouvement de l'opéra comique, et très proche des chanteurs, très attentionné. Et l'ensemble Aïdès, absolument magnifique. Donc ça, vocalement et enfin musicalement, c'est en effet très réussi. Là où quand même, pardon de vous contredire, Zoé, mais quand vous parlez d'exploration, j'aurais aimé qu'il y ait une exploration, mais une exploration, ça veut dire une évolution dramaturgique. Pour moi, tout est donné dès le départ. La muse nous dit, voilà, c'est un érotomane, il a le syndrome de Clérambault, tout est donné, et donc elle ne nous permet pas de... vous parlez de perception, mais on n'a pas de perception, parce que tout nous est dit avant que ça se joue. Et donc, pour moi, ça empêche complètement le merveilleux et le fantastique de se déployer comme c'est une donnée très importante de l'œuvre.
Un dernier mot, Zoé, on nous reste quelques secondes.
Je comprends ce que vous dites, je suis assez d'accord, même si encore une fois, moi, quand on ne me donne pas tout, j'ai jamais compris ce personnage d'Hoffmann. En fait, elle essaye de faire quelque chose de personnage, c'est toujours ses problèmes délivrés, c'est-à-dire que c'est dur de donner du corps et du coffre à des personnages créés pour plaire à un public hyper de l'époque. Et je trouve que, comme elle s'appuie beaucoup sur son ténor, qui joue vraiment... Alors, lui, vraiment, il saute, il court, il parle. Il est un peu l'inverse. Je suis désolée, j'en profite pour caser une petite balle perdue de Piotr Béchala, notre Radamel dans Aïda. Voilà. qui est toujours un très beau ténor, mais qui joue toujours aussi mal, et c'est embêtant. Voilà.
Merci Zoé, merci Anna Sigalevitch d'être venue dans les Midi de Culture. Les Contes d'Hoffmann, c'est jusqu'au 5 octobre à l'Opéra Comique. Vous retrouvez toutes les dates sur la page des Midi.